France Inter. Laetitia Gaillet. Le 6-9 de l'été.
Il en faudrait énormément.
Mais j'y ai longuement réfléchi et j'ai une réponse. L'armée.
L'armée.
Au lieu d'apprendre à nos recrues à faire la guerre, on leur apprendra à faire l'amour.
Vous avez 3 minutes au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Top.
Pardonnez-moi mon père parce que j'ai filmé à Lourdes. J'ai ajouté des choses dans le film pas très catholique. Je m'appelle Jean-Pierre Mocky. Ah bon, tu me connais pas? Ah merde alors.
Extrait de Bourvil dans Les Talons et Jean-Pierre Mocky dans la bande-annonce du Miraculé. Le grand entretien de cette matinale ce matin est consacré à Jean-Pierre Mocky, mort hier. 66 films à son actif, ça c'est pour le cinéma, en tant que réalisateur, de nombreux rôles aussi en tant qu'acteur. Jean-Pierre Mocky, c'était un cinéma inclassable, tout le monde le dit, c'est ce qu'on peut lire un peu partout. Un cinéma qui dénonce aussi. Pour en parler ce matin ici en studio, Stanislas Nordet, le fils de Jean-Pierre Mocky, comédien et metteur en scène. Vladimir Kosma, compositeur qui a signé la musique de plusieurs des films de Jean-Pierre Mocky. Et puis en ligne avec nous, l'acteur Jean-François Stévenin qui a tourné avec Jean-Pierre Mocky et Jean-Michel Frodon, historien et critique de cinéma. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, bon. tout le monde est là. Je vais commencer avec vous, Stanislas Nordet. On sait que les rapports avec votre père n'étaient pas simples. Vous n'êtes pas vu pendant 30 ans à peu près. C'est important pour vous de venir défendre votre père aujourd'hui?
Je pense que son œuvre le défend tout seul, parce que c'est vraiment une œuvre, c'est un chemin incroyable sur presque 60 ans hein, de cinéma, avec en passant par en n'étant jamais à la mode, en étant toujours à côté, à la marge, pas volontairement, c'était pas une posture. Donc moi ce qui est important, c'est jamais simple d'être le fils d'un grand artiste hein, c'est ou la fille, ou le, il y a quelque chose qui est à côté de la norme, mais en même temps c'est formidable parce que voilà, on comprend assez vite que ses parents sont dans un processus de création qui implique d'avoir un rapport à la filiation différent. Donc non, c'est pas si compliqué que ça,
c'est
et c'est
si
effectivement important. Moi, j'estime l'artiste et j'estime le chemin incroyable de cet homme qui a continué à tourner jusqu'au dernier moment, à avoir des projets jusqu'au dernier moment, qui se projetait toujours dans l'avenir et qui n'était jamais dans le regret, jamais dans l'amertume.
Pas dans la nostalgie non plus.
Non, je crois. Il était voilà, il avait perdu tous les acteurs avec les Bourvil, les Michel Serrault qui étaient des piliers, mais en même temps, il recréait sans cesse des familles de cinéma nouvelles. Et je pense que son art, la force de son art, c'était l'art de la rencontre. Et c'était un homme qui, c'est je pense un cinéaste qui a aimer passionnément et généreusement les acteurs. Il poussait toujours les acteurs à être au plus beau et au plus étrange d'eux-mêmes, au plus inconnu d'eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est, voilà, on retiendra aussi ça de lui.
Stanislas Nordet, vous parlez de son cinéma et on va en parler avec Jean-Michel Frodon, qui est historien du cinéma. Vous, comment vous le regardez? Est-ce qu'on a le regard du fils ou est-ce qu'on a le regard de l'artiste? Comment vous regardez le cinéma de Jean-Pierre Mocky?
Moi, je vois, peut-être parce que je fais du théâtre et que le théâtre est une forme d'artisanat, je vois dans son cinéma voilà, un artisan. C'est vraiment un artisan, quelqu'un qui a fabriqué dans des économies extrêmement différentes aussi. C'est-à-dire, je pourrais pas dire comme certaines personnes le disent, tiens, il y a eu des périodes où il y a eu du succès, des échecs, etc. Il a travaillé de manière différente avec les moyens qui lui étaient offerts, possibles, et il s'est réinventé sans cesse, en prenant tout le temps des risques. Donc peut-être moi c'est ça qui me touche, c'est-à-dire que moi j'ai aussi une vie qui est une vie voilà passionnée d'artiste, et je vois ce que c'est de pouvoir sans cesse être dans cette volonté de réinventer les choses et surtout de ne pas faire de compromis, parce que je pense que si j'ai aussi une admiration forte, c'est à cet endroit-là. C'est quelqu'un qui a pas fait de compromis. Il faisait les films qu'il avait envie de faire. S'il y avait moins d'argent pour les faire, il les faisait quand même. Il dénonçait ce qu'il avait envie de dénoncer, donc il était profondément libre.
Alors, on va y venir à sa liberté. Jean-Michel Frodon, vous êtes historien et critique du cinéma. Voilà, on écoute Stanislas Nordet. Comment on peut classer le cinéma de Jean-Pierre Mocky? Est-ce qu'il est classable, d'ailleurs?
Oui. Si on tient à classer, on trouve toujours des catégories. La première chose à dire, c'est 60 films en 60 ans. Il y a, je crois, personne d'autre dans ces générations que ça recouvre qui peuvent aligner une telle prolixité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aura réussi constamment à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire du cinéma, avec une énergie, une inventivité, qui commence à une période bien particulière, hein, celle de la Nouvelle Vague. Le premier film, c'est 1959, les dragueurs, c'est l'année des 400 coups, ça va être...
Mais il n'est pas dans cette, il n'est pas dans cette nouvelle vague.
Il est dans cette nouvelle vague aussi, on a une nouvelle vague, cette énergie, cette liberté qui envahit le cinéma français, et pas que français, à cette période-là, mais il n'est pas dans les groupes constitués de la nouvelle vague, même si quelqu'un comme Godard immédiatement va saluer ce qui en fait son premier film, La tête contre les murs, dont il n'est pas réalisateur, mais dont il est le scénariste et l'acteur, un des deux acteurs principaux avec Charles Aznavour, et qui fait partie de cette espèce de soulèvement, comme ça, de rébellion dans le cinéma français de l'époque. Il en fait partie, mais à une place singulière, et il ne sera jamais satellisé par les groupes plus constitués qui feront la nouvelle vague, et il va en garder pour l'essentiel. Stanislas Nordel a très bien dit cette énergie, cette créativité, ce côté aussi artisanal dans le meilleur des cas, on dira, et bricolo quand il n'y avait pas le choix, et je crois que ça lui convenait bien, le bricolage aussi, et qui traverse les décennies avec sans jamais s'arrêter, quoi.
Jean-Michel Frodon, et je pose aussi la question à Stanislas Nordet, est-ce que finalement Jean-Pierre Mocky n'était pas en avance sur son temps? Parce que dans ses films, il dénonce la stupidité des supporters, il dénonce les politiques corrompues. Il a des idées qui sont, il le dit avant tout le monde.
Oui, Stanislas parce que je pense aussi qu'il était profondément dans la vie. Il était, c'est quelqu'un d'extrêmement accessible, qui était en curiosité constante, qui parlait avec les gens. Donc il était au plus proche de la vie. Il n'était pas du tout détaché. Donc je pense aussi que ça lui permettait d'avoir une espèce d'œil de lynx qui... Moi, je suis très attaché à une autre figure qui n'a rien à voir que la figure de Pasolini, mais que je pourrais rapprocher à cet endroit-là. C'était quelqu'un qui savait regarder ce qui se passait dans la société immédiatement.
On va écouter un morceau de musique pour parler aussi de la musique des films de Jean-Pierre Mocky. Extrait de Pizzicato du Tueur dans la bande originale du film Le Furet en 2003. C'est vous, Vladimir Cosma, qui avez composé cette musique. Vous êtes à l'origine d'une douzaine de musiques de films de Jean-Pierre Mocky.
Pourquoi vous voulez minimiser ma participation de Mocky, puisque j'en ai au moins 30 ou je ne sais pas.
Ah ben moi, alors autant voilà, pour moi, c'est moi qui m'a lu.
J'ai des preuves concrètes là,
ah oui, on voit les CD, les
mais
DVD.
Mais d'où ça va aussi. Bon, ça fait partie des musiques que j'ai faites pour lui. Et c'est une musique qui est assez caractéristique par rapport à ce qui nous liait, en fait. Parce que c'était curieux que j'arrive dans l'univers de Jean-Pierre Mocky, moi, qui faisait les films de Gérard Houry, de Francis Weber, d'Yves Robert, et tout ça, des cinéastes qui sont plus ou moins à l'opposé de ce qu'il faisait, tout en n'étant pas tellement à l'opposé, puisqu'on faisait de la comédie.
Je me posais la question, votre première rencontre, justement.
Mais première rencontre, c'était justement, il m'a appelé un jour, ce qui m'a surpris terriblement. C'est peut-être un des cinéastes qui m'ont appelé, puisqu'on est toujours appelé par les metteurs en scène. Nous, musiciens, on a un rôle subalterne, c'est pas nous qui appelons, cherchons les metteurs en scène, c'est eux qui nous cherchent. Donc, il m'a appelé un jour pour faire la musique d'un de ses films. J'étais très étonné parce que je ne voyais pas du tout entrer dans cet univers-là, surtout que Houry m'avait parlé avant d'un film qu'il avait vu de Mocky et qui comprenait pas pourquoi tout le monde disait que c'était génial, que c'était si. Il est allé le voir, il n'a pas trouvé la génialité et tout ça. Bon, je suis allé voir le film. Et je trouvais, moi, par contre, que c'était génial ou formidable ou ce que vous voulez. Et donc, peu de temps après, il m'a appelé sans aucun lien avec ce que je viens de vous dire. Et il m'a demandé de faire... Alors, ce qui nous liait un peu, c'était une espèce de liberté de l'utilisation de la musique par rapport à l'image.
Il vous a laissé libre ?
Il m'a laissé libre tout en me laissant pas. C'est-à-dire que tout au long de notre collaboration, il me donnait toujours des exemples qui étaient toujours les mêmes. Il me disait, voilà, je voudrais une musique un peu comme le troisième homme, qui, etc. Ou alors, il passait au carnet de bal. Mais enfin, il y avait toujours cette espèce de référence. Et avec ça, je devais faire ce que je pouvais faire, tout en me montrant jamais les films. Je lui disais, mais je peux pas voir un bout de film. Non, 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 on n'a pas le temps, tout ça. Le film est en studio, ça coûte de l'argent faire des comédies. Donc, en fait, j'ai rarement vu ces films avant de faire la musique. J'ai fait des musiques pour lui, la plupart des musiques, sans voir les films, ce qui est assez extraordinaire. Mais ça me correspond assez, parce que je trouve que la musique n'a rien à voir avec... avec l'image, c'est une espèce d'élément poétique, supplémentaire, poétique ou pas poétique, mais enfin quelque chose qui n'a pas de rapport précis. La musique n'est pas, ne se concrétise pas, elle ne dit pas les choses comme les mots le disent avec précision. C'est-à-dire, vous pouvez mettre une symphonie de Mozart sur un film de Hitchcock ou sur un film de Mocky, ça collera très bien si la musique est belle, si elle a sa logique. En elle-même, c'est comme un caméléon qui prend la couleur du film, et c'est pas le film qui prend la couleur de la musique. Ouais, c'est pas, pour moi, la musique, le film n'impose pas une musique spécifique.
Donc vous étiez dans une extrême liberté protégée, quoi.
Voilà, j'étais dans une extrême liberté puisque il me parlait des choses en général, il m'amusait beaucoup, et ça a été un cadeau énorme dans ma vie en dehors de ces films. C'était l'homme, c'est-à-dire que c'est, il y a très peu de gens dans ce métier de cinéma qui me faisait plaisir à entendre le matin ou l'après-midi quand on m'appelait. Bon, il m'amusait, il était toujours surprenant par sa franchise et par sa drôlerie et par les choses paradoxales qu'il sortait, voilà. Donc c'est quand même une longue collaboration puisqu'on a commencé il y a une trentaine d'années. Et j'ai fait pratiquement tous ces films depuis une trentaine d'années. Donc ça fait bien plus que 12. Et si je prends aussi les choses de télévision, il vient de finir là-bas une centaine de films sur Hitchcock. Des petits films, mais films quand même. Voilà. Et j'ai fait la musique de ceci aussi. Il était plus en action, plus que l'approfondissement de l'action. C'était la seule chose que je pouvais, qui m'a frustré un peu dans la collaboration avec lui, c'était qu'il était toujours, il faut faire, mais il faut savoir aussi ce qu'on fait. Et parfois, il ignorait ça au profit d'une action permanente. Et très intéressante.
On va aller à présent au cœur, on est au cœur avec la musique de votre musique, Vladimir Cosma, dans les films de Jean-Pierre Mocky. On va aller maintenant au cœur du tournage. On retrouve Jean-François Stévenin, bonjour, enfin rebonjour. Vous avez tourné plusieurs films avec Jean-Pierre Mocky. Alors, question bête que je me pose depuis hier soir, on nous montre beaucoup de ses coups de gueule, mais quel patron c'était sur un plateau de tournage?
Ah, pour moi, c'est un metteur en scène absolument incandescent, fulgurant, naturellement inclassable. Et moi, on a commencé avec Jacqueline Maillan. Et depuis, on est devenus très amis. À l'époque, moi, je trouvais qu'il se foutait du film. Mais pas du tout, il voulait pas de pathos. Il disait, mais non, il n'y a pas de pathos, avoir à se prendre la tête, tu joues comme ci, comme ça, allez, on s'en fout, vite, moteur, hop, 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 pas le temps. Donc, on s'engueulait de ce temps-là. Et là, on est devenus très, très amis, j'ai compris tout ça. J'ai retourné après plein de fois avec lui, notamment ces petits films qu'il faisait dans les 10 dernières années. Et à chaque fois, c'est un émerveillement. Il y a aussi un gars qui s'appelle Olivier Boisson, qui est aussi inclassable que lui, qui organise des dîners de fanats de cinéma. Et ben l'an dernier, on était là, et Jean-Pierre arrive, et à 21h, on est là, mais tout le monde se tait. On était avec Yves Boisset, on se tait jusqu'à 1h du matin, on l'écoute, c'est intarissable. Il a connu quand même, d'un petit gars comme moi, à Marlon Brando, à Francis Blanche, tous les gens avec lesquels il a tourné. Mais on croit que c'est pas vrai, tellement il a connu de gens comme ça. Et il en parle avec amour, et il est passionné d'acteur. Alors moi, c'est ça qui m'a surpris, surtout les dernières années. Il se foutait pratiquement du film. Il me dit, mais je suis déjà en train d'en faire un autre dans ma tête. À tel point que quand on était des fois J'étais avec John Berkin et Sabine Azéma, quand on n'était pas convoqués sur le film, et ben on y allait quand même pour le voir tourner. C'est un spectacle. Elle est tout seule. Il parle pendant les prises, il engueule son chef opérateur, tout le monde. C'est un poème. Mais il est passionné d'acteur. Passionné d'acteur. Et lui-même se met en scène, quoi. C'est-à-dire, on allait sur un film.
Jean-François Stévenin, Jean-Pierre Mocky disait donc qu'il aimait les acteurs, il aimait aussi les transformer, ça se voyait physiquement, on l'a vu avec Bourvil, on l'a vu avec Catherine Deneuve par exemple. Vous, au-delà de l'apparence, qu'est-ce qu'il a changé chez vous? Est-ce qu'il a changé chez vous quelque chose en tant qu'acteur?
Se libérer du pathos, quoi. C'est-à-dire pas rentrer dans la peau du personnage, tout ça c'est des conneries pour lui. Non, tu te débrouilles, on n'a pas le temps, vite, allez, hop, où est mon chien, et t'es en retard, enfin voilà. Noyant le plateau dans un flot de paroles et de mimiques plus drôles les unes que les autres, qui fait que la journée est finie, on a hâte d'être à celle du lendemain. C'est complètement incroyable. Et puis surtout les rencontres, quoi. Forcément, ça va de Brando à un petit gars comme moi. C'est absolument incroyable, tous les gens qu'il a rencontrés et qu'il connaît en profondeur, avec lesquels il a vraiment discuté profondément. C'est une mémoire aussi du cinéma formidable. Je connais que Bertrand Tavernier ou Thierry Frémaux, qui connaissent les films comme lui. Il connaît absolument tout. Alors, je me demande. Et puis alors, ce qui est incroyable, c'est aussi on était ensemble dans un festival à Cognac l'an dernier. Et puis, on se quitte à 1h du matin, il boit un grand canon de blanc, il fume un cigare infect. Et puis le lendemain, à 7h du matin, il est debout. Et moi, je dors jusqu'à midi. Il est debout. Et je lui dis, mais pourquoi tu t'es levé? Il me dit, si, parce que là, il y a des gars dans les Émirats arabes. J'ai essayé d'aller à Londres, s'il m'en choper un, parce qu'il me faudra un peu de pognon pour le prochain film. D'ailleurs, tu devrais le faire, il y aura Depardieu, il y aura de machin. Et tout marche.
Je vais poser la question à Jean-Michel Frodon. Jean-François Stévenin vient de parler effectivement de... il était connu aux États-Unis, il a rencontré une quantité de gens. Comment on explique, et c'est pas le seul hein, d'ailleurs, hein, que Jean-Pierre Mocky était aussi connu là-bas, en tout cas des réalisateurs?
C'était cette personnalité dont on entend bien à travers ce que dit Stévenin, cette sensibilité, cette énergie, ce rapport incroyablement intime qui venait du fait qu'il avait commencé comme acteur aussi. Hein, son amour des acteurs, il vient d'avoir été acteur à ses débuts et de l'être resté. Et quand il jouait à l'écran et hors écran également. Et puis après, il y avait une sorte de liberté dans sa manière de faire des films, mais aussi dans son rapport aux gens et dans son rapport au cinéma, qui lui donnait accès à un éventail. Sans un éventail de films, de styles, etc., sans tabou, sans catégorisation, et qui lui a permis de trouver des interlocuteurs et d'être de plein pied avec eux sans difficulté. Après, c'était une personnalité attachante, avec le côté qu'on a un peu entendu de coups de gueule et de braillard et de choses comme ça. Non, je pense que il ne se forçait pas, il était comme ça, mais que ça faisait partie aussi de sa stratégie pour continuer à faire des films. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui devait inventer les possibilités de faire le film d'après le plus vite possible et d'être cette figure hors norme le servait pour continuer de trouver des interlocuteurs et des partenaires aussi bien dans la profession qu'en dehors pour continuer de faire des films.
Hommage à Jean-Pierre Mocky dans le grand entretien ce matin sur France Inter avec son fils, le comédien et metteur en scène Stanislas Nordet, le compositeur Vladimir Kosma, l'acteur Jean-François Stévenin et Jean-Michel Frodon. Stanislas Nordet, il y a un concert de louanges autour de votre père qui était assez critique aussi en disant on salue toujours ceux qui sont morts et on les aide pas au moment où ils sont... Vous l'avez entendu dire ça ?
Il était jamais amer. Il pouvait être triste, oui, parce que il considérait à juste titre qu'il représentait quelque chose d'important dans le cinéma français. Par exemple, l'année dernière, avec ma sœur et mon frère, on voulait que les Césars lui rendent un hommage. Bon, c'était peine perdue. Mais en même temps, il a jamais couru après. Hein. C'était pas quelqu'un qui était obsédé par avoir un prix, un machin.
On l'a entendu. Les prix, il disait, c'était pas.
Simplement, c'est vrai. Ces dernières années, il avait de plus en plus de mal à les monter, ses films, hein, financièrement, à trouver des partenaires. Et que ça, effectivement, je pense que c'était quelque chose qui le touchait, mais ça ne l'empêchait pas. Il n'était jamais dans la récrimination, etc. Il se disait, bon, je vais continuer à avancer tout de même. Et il continuait à créer, à inventer des films avec peu de moyens, mais que moi j'espère qu'on revisitera, parce que on les a jugés un peu vite parfois, les films des 20 dernières années, en disant ouais, il y a des choses bâclées qui vont trop vite, etc. Et en même temps, je crois qu'il il inventait une autre façon aussi de construire son cinéma avec.
Est-ce qu'il construisait une œuvre selon vous?
Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se répond constamment du premier au dernier film, et je pense qu'en tout cas, comme il avançait toujours, il regardait toujours devant. Moi, je le compare à un peintre, c'est-à-dire que il a fait des grandes toiles, il a fait des toutes petites choses qui ont autant de valeur sans doute, mais qui sont moins spectaculaires. Voilà, c'est quelqu'un qui a continué sans cesse à remettre le travail sur l'établi. Et je suis très curieux du regard que, disons, dans 20 ans, l'histoire du cinéma posera sur ce chemin-là. Effectivement...
Parce qu'il n'a pas été tendre, hein. Il a été écarté...
Oui, mais en même temps, comme je vous dis, comme il était toujours en train de travailler, c'était le plus important pour lui. C'était d'être au contact des acteurs, d'être au contact du public. Il refusait jamais d'aller dans un festival, faire un gala, faire une signature, quelque chose, parce qu'il avait besoin de ça, il avait besoin de ce contact-là. Il était dans cet endroit de la rencontre, et je crois qu'il va rester quelque chose d'important. On parlait de la nouvelle vague tout à l'heure. La différence de mon père avec d'autres de la nouvelle vague, comme Chabrol ou Truffaut ou Godard, c'était que c'était quelqu'un qui n'avait pas rejeté le cinéma d'avant. C'est-à-dire, il était dans l'invention de ce nouveau cinéma, et en même temps, il a accueilli dans son cinéma des grands acteurs des temps précédents, ce que n'aurait pas pu faire ni Godard ni Truffaut. Donc il avait cette générosité aussi de regarder derrière et devant à la fois.
Vous êtes un homme fier aujourd'hui de son père?
Ah oui, moi je suis très très fier. C'est pas forcément facile d'être le fils de ou les enfants de ma sœur Olivia et mon frère Frédéric dirait pas le contraire, mais oui, très très fier du parcours et d'avoir cette chance-là aussi, d'avoir c'est une forme de boussole quand même, d'avoir un père qui est un inventeur comme ça. Ça donne beaucoup.
Merci beaucoup Stanislas Nordet, Vladimir Cosma, Jean-François Stévenin et Jean-Michel Frodon d'avoir été dans le grand entretien ce matin pour rendre hommage à Jean-Pierre Mocky. Merci à vous et belle journée.